Alors, nous retrouvons Sébastien Charles, violoncelliste, qui est passé de l'orchestre, si je puis dire, qui passe de l'orchestre à la scène en soliste. Alors, Sébastien Charles, vous proposez donc des concerts en soliste, mais alors vraiment
tout à
solo
fait.
Intégral, on
voilà,
va dire.
Solo intégral, hein, seul sur scène.
Seul sur scène. Alors, il y aura toute une série de concerts là, que vous allez proposer. Le premier a déjà eu lieu, je crois.
Voilà, il y en a déjà eu plusieurs à Montpellier, Montferrier, Castelnau. Et là, j'enchaîne à la deuxième quinzaine de décembre, donc le 18 décembre à Saint-Martin-de-Londres à 16h et 18h, le 19 à Villeneuve-les-Maguelones à 19h, le 20 à Montbazin à 17h et 20h, et le 21 également à 17h et 20h à Canet, et tout ceci dans les églises.
D'accord. Alors, ne vous affolez pas, chers auditeurs, si vous n'avez pas noté, on va mettre tout ça sur le site de la radio. Alors, le répertoire que vous allez jouer, alors, il y aura bien sûr, quand on fait référence au violoncelle, seul.
Bach, évidemment.
Les voilà, suites de Bach.
Jean-Sébastien Bach.
Alors, est-ce que vous êtes dans la pratique qu'avec Casals, où on racontait sur les suites de Bach, il en jouait une tous les jours de la semaine
Non, j'en joue
et
pas
le
une.
Et le dimanche, il en rejouait une en double, puisqu'il y en a six.
Voilà, non, j'en joue pas encore une tous les jours de la semaine. Pour l'instant, sur ces concerts-là, je propose... en fait, à chaque concert, je propose deux suites de Bach, soit la première et la troisième, soit la deuxième et la troisième. Et ensuite, autour de ces suites de Bach, je propose un répertoire romantique, alors qui ne sont pas des pièces pour violoncelle seul, pour le coup, mais mon choix s'est porté vers des pièces qui, évidemment, fonctionnent aussi sans l'accompagnement. En général, c'est des pièces pour violoncelle et piano, qui peuvent être d'ailleurs des transcriptions, on pourra en parler. Mais voilà, donc peut-être que les gens qui connaissent ces pièces avec violoncelle et piano percevront un manque ou pas. J'espère que j'arriverai à ne pas faire sentir ce manque à des gens qui connaissent ces pièces. Voilà, c'est un choix voilà, qui peut être discuté, parce qu'on pourrait dire mais pourquoi jouer des pièces tout seul, elles ne sont pas écrites comme ça. Mais en tout cas, le retour que j'en ai auprès du public, c'est que ça fonctionne très bien et que ça se marie bien en fait avec Bach, parce que ça permet une alternance d'atmosphère. Bach, c'est une musique un peu plus intérieure, même si dans les gigues, par exemple, finale, c'est la danse finale de chaque suite, où c'est quand il y a quand même beaucoup d'exubérance. C'est quand même une musique voilà, un peu plus posée, un peu plus calme, qui laisse une grande liberté d'interprétation, comme beaucoup d'œuvres, mais je trouve plus particulièrement chez Bach, si on regarde juste, on prend des CD, on va voir sur Spotify ou Deezer les durées d'une suite de Bach, on peut avoir des durées très très variables. Alors que dans la musique romantique, oui, c'est un peu plus... pas cadré, mais disons que... comment je pourrais dire ça, il y a un peu plus de consensus, même si évidemment chacun...
Oui,
heureusement, mais sa patte personnelle.
Et puis, il y a à l'époque où écrivaient les compositeurs, où il y a eu l'invention du métronome, il y a eu des choses comme ça, et puis il y a eu les indications de mouvement qui devenaient beaucoup plus précises, beaucoup plus importantes, et puis il y a la tradition d'interprétation qui a fait aussi. Et depuis que les baroqueux sont passés par là, comme on les appelait dans les années 60-70, le baroque a gagné une liberté d'interprétation absolument énorme.
Oui, tout à fait. Et puis voilà, avec les connaissances qui ont été acquises, toutes les recherches qui ont été effectuées, on peut aussi aujourd'hui aller un peu plus près de ce qui pouvait se faire à l'époque. Mais en même temps, ça ne reste que des suppositions. Donc je pense que pour moi, c'est même avec les connaissances qu'on a, c'est chacun a la liberté d'y mettre... ce que lui, il a en lui, et ce qui compte pour moi, c'est juste que le spectateur puisse recevoir une émotion et, voilà, et partager cette émotion avec le public, en fait.
Alors, on va quand même évoquer quelques-unes des œuvres romantiques, alors du premier ou romantisme, ou du deuxième ou du troisième, je ne sais pas. Donc, il y aura quelqu'un dont on va célébrer le 150e l'année prochaine, Rachmaninov. Et
oui.
Ça vocalise donc une pièce qui est pour piano et voix au départ.
Voilà, tout à fait.
Avec une voix qui, qui chante mais n'a pas de texte.
Exactement, donc, voilà, c'est une vocalise. Une vocalise, voilà, ça porte bien son nom. Et la pièce en forme de habanera de Maurice Ravel est également une pièce qui est une vocalise, c'est-à-dire qui n'a pas de parole non plus. Pour continuer sur le chant, il y a la mélodie de Gabriel Fauré, Après un rêve. Voilà, mais ces pièces ont été transcrites pour violoncelle et piano, elles sont d'ailleurs transcrites dans d'autres instruments aussi, mais c'est vrai que le chant, voilà, se prête particulièrement au violoncelle, dont on dit qu'il est le plus proche de la voix humaine. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, la musique s'y prête parfaitement.
On dit souvent ça, effectivement, parce qu'en termes de tessiture, ça couvre la tessiture de la voix humaine.
Oui, tout à fait. Moi, qui suis plutôt un chanteur d'une voix de basse, j'ai du mal à descendre jusqu'au do grave du violoncelle. Et puis, des sopranos, la tessiture aiguë du violoncelle, on couvre quand même à peu près 5 octaves. Donc, ça laisse...
Oui, il n'y a pas beaucoup de voix qui arrivent à couvrir 5 octaves non, efficacement. Donc, voilà. Là, après un rêve, qui est une mélodie célébrissime de Fauré, sans doute celle la plus une des plus reprises, sinon la plus reprise sous forme de transcription pour différents instruments.
Oui, tout à fait. Oui.
Et puis alors il y aura aussi la célèbre méditation de Thaïs.
Voilà que j'ai.
Là c'est moins, on fait moins d'écart parce que c'est pour violon au départ.
Voilà, c'est ça. J'ai chipé ça au violoniste. Voilà, c'est tiré donc de l'opéra Thaïs de Jules Massenet. Et voilà, ça se prête très bien au violoncelle. Beaucoup plus joli au violoncelle. Pardon pour les violonistes.
Et puis, alors, il y a... Alors, ça, je me dis, je suis curieux d'entendre ce que ça peut donner. Alors, un des grands, grands concertos pour violoncelle du répertoire, c'est celui d'Edouard Elgar. Alors, les mélomanes ont tous en tête l'interprétation de Jacqueline Dupré.
Bien sûr, oui.
Qui a disparu trop tôt avec une sclérose en plaques, qui était l'épouse de Daniel Barenboim, qui ne va pas très bien en ce moment, lui non plus. Alors, ce concerto d'Elgar, qui est d'un romantisme échevelé, j'aurais envie
tout
de dire.
Tout à fait, oui, c'est vraiment, je crois que c'est le...
Mais sans l'orchestre, c'est osé.
C'est osé, je suis d'accord. Je l'ai proposé avant, en cercle plus intime. Voilà, on pourrait dire que j'ai fait des essais, entre guillemets, pour voir un petit peu comment ça pouvait fonctionner tout seul. En fait, ça fonctionne bien aussi parce que quand il y a la partie violoncelle, l'orchestre est finalement assez léger. Il y a vraiment cette alternance entre des grands outils orchestraux et ensuite le violoncelle qui a sa partie soliste, qui a, avec un accompagnement relativement léger, comme je disais. Donc du coup, finalement, j'ai rajouté 2-3 petites transitions entre les parties de violoncelle, voilà, qui étaient normalement jouées à l'orchestre. Mais ça fonctionne très bien. Alors effectivement, quelqu'un qui connaît très bien l'œuvre, j'ai des amis qui sont venus, ils m'ont dit « Ah oui, après des grandes montées, voilà, d'un grand lyrisme, des grandes gammes qui vont très vite et qui terminent dans le suraigu du violoncelle, il y a l'orchestre qui enchaîne fortissimo derrière. » Et effectivement, quand on connaît bien... On se dit, ah, il manque quelque chose, mais voilà.
Bah, c'est peut-être pas il manque quelque chose, mais du coup, c'est une autre approche de l'œuvre,
tout à fait.
Dire, qui peut permettre de la découvrir autrement. Bien, voilà. Et puis, on va pas avoir le temps d'en parler plus longuement, mais il y aura aussi Camille Saint-Saëns, qui a écrit un magnifique concerto pour violoncelle aussi.
Voilà, là, c'est l'Allegro Appassionato, qui est une pièce pour...
Voilà. Et puis, un compositeur, moi, j'encourage les gens à aller l'écouter, qui est moins connu du grand public, Ernest Bloch.
Ah oui, il écrit des choses magnifiques.
Voilà. Et qui a aussi écrit de très belles pièces pour violoncelle et orchestre, notamment.
Voilà, il y a Chelomo. Voilà. Là, c'est Prière en français, voilà. Qui fait partie d'un recueil de 3 pièces sur des mélodies juives, en fait.
Voilà, oui, c'est un compositeur qui revendiquait haut et fort son appartenance artistique au monde judaïque.
Voilà.
Merci beaucoup, Sébastien Charles.
Merci à vous.
Et puis, on vous souhaite plein de succès pour ces concerts. Et les détails seront, je le rappelle à nos auditeurs, sur le site de la radio, sur la page consacrée à cet entretien, aux entretiens de l'Auberge Espagnole. Merci.
Merci.
Et puis, à une prochaine.
Au revoir.